Fait que le start recording est fait. Est-ce que tu es prêt?
Ben oui, je suis prêt.
Ok, parfait. On n'a même pas de nom, c'est vrai, on n'a pas de nom. Ok, bon, c'est correct. Allons-y, mon pied. Ok. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu version podcast pour l'épisode 00. Donc, j'ai avec moi Kevin.
Allô.
Allô. Donc, c'est le premier épisode, en fait, c'est un épisode test d'un projet qui nous tient à cœur. Vite, on va se présenter parce que ça vaut la peine de le faire. Donc, moi, c'est Sylvain de l'école du jeu. Vous pouvez voir des vidéos que je fais sur Internet. Je suis présent pas mal sur les réseaux sociaux. Et on a décidé de se lancer dans une autre aventure. Mais avec moi, j'ai Kevin, que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Donc, Kevin, parle-nous de toi.
Ben, en fait, moi, je suis pas vraiment présent sur Internet, sauf sur certains forums, puis c'est probablement la seule place à laquelle vous avez pu m'entendre parler.
Ou encore, si on suit Kevin dans les Kickstarter, on va voir que de temps en temps, on a une petite notification qui dit « Kevin a backé quelque chose ».
Ah ouais, puis il est sur Instagram.
Et voilà, donc c'est Instagram, c'est excellent. On va mettre les notes, d'ailleurs, dans les show notes pour pouvoir voir les comptes Instagram de Kevin, puis aussi de l'école du jeu. On a un paquet d'autres petites choses comme ça, un groupe Facebook que vous pouvez suivre aussi, puis maintenant, un podcast.
Okay.
Donc, on va y aller avec, tout début, donc, on va parler un peu de nos expériences de jeu, donc des jeux qu'on a joué récemment. Bon, on en joue des fois plus que pas assez, mais souvent, on a beaucoup de choses de jeux qu'on a envie de parler. Donc, Kevin, avec quoi tu veux commencer? De nous jaser un petit peu.
Moi, je vais commencer avec Brass Birmingham, parce que c'est un petit remake. C'est la suite d'un vieux jeu qui ont été réédités. Maintenant, il est beaucoup plus beau. J'avais jamais eu l'occasion d'essayer le premier Brass, qui est Lancashire. Je sais pas pourquoi j'ai passé à côté de ça. Sûrement parce qu'il était vraiment pas super joli.
Mais vraiment pas beau.
Ouais, non. Puis cette version-là, dessinée par M. Coddington, est vraiment écœurante. Donc, grosso modo, là, Brass, faut faire le plus de points en construisant soit des bâtiments, soit des liens, dans le fond, établir le plus gros réseau de transport pour de la marchandise. Puis, on va faire ça en plusieurs actions, soit genre construire des bâtiments, développer son réseau ferroviaire, vendre, prendre des prêts aussi, hein, quand on manque d'argent dans le jeu. En fait, dans le jeu, c'est presque assuré que vous allez prendre des prêts, parce que l'argent est une denrée très, très rare. Puis, c'est pas mal ça. Il se passe en deux âges. En fait, c'est un des trucs qui est intéressant du jeu. Il se passe en deux âges. Le premier âge, c'est la phase des canaux.
Canal phase.
Ouais, la canal phase. Une fois qu'on va avoir établi le réseau sur seulement les rivières ou ces trucs-là pour transférer nos ressources, dès que l'âge est terminé, on enlève tout ce qui est tout notre réseau de canaux, et puis on va recommencer à neuf avec des rails dans le prochain âge. Puis toutes les industries de niveau 1, on les enlève du plateau aussi, puis il va falloir recommencer avec des industries de plus haut niveau si on n'avait pas encore mis sur le plateau. Ce qui fait que le jeu, à des fois, tu vas essayer de mettre plusieurs industries, puis après ça revenir, puis essayer de mettre des niveaux 2 pour qu'ils restent là, puis qu'ils scorent deux fois dans la partie, sans que tu aies besoin de dépenser deux fois pour des industries différentes. En tout cas, ce jeu-là m'a terriblement surpris. Tu penses que tu es limité par tes actions, puis finalement, tu réussis à t'arranger avec ça, c'est pas mal bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer?
Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Il fait partie de ma wishlist de jeux que je dois essayer. En fait, j'hésite encore à savoir si je dois essayer Birmingham ou encore Lancashire. Au final, je pense que je vais probablement essayer la première version, que je vais avoir l'occasion de pouvoir mettre la main dessus.
Nice.
Ça semble un bon jeu aussi. Il y a une application qui existe, mobile.
Ouais.
Je vais peut-être jeter un coup d'œil. Je sais qu'il l'a sur Apple, sur Android aussi. Le jeu utilise par exemple le vieux design graphique, là, un peu là, au goût du jour là, pour l'application mobile. Mais sinon, je sais que c'est pas la nouvelle version là, avec tout le beau design de Mr. Coddington dedans.
Ouais, ben j'avais essayé moi l'application, puis je sais pas, je pense que c'est peut-être le fait que il y a quelqu'un qui m'a montré le jeu, donc j'ai pas eu besoin à lire les règles ou à essayer de le comprendre là. Ça a probablement aidé un petit peu à mon appréciation.
En tout cas, c'est certain qu'il va falloir que j'y joue à Brass.
Yeah.
De mon côté, un jeu que j'ai vraiment aimé, je l'ai découvert au courant du délirium ludique qu'il y a eu au Collège Notre-Dame-de-Foy il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le jeu Gizmos. En fait, je suis très heureux parce que j'ai réussi à mettre la main sur une copie du jeu qui a une distribution un peu hasardeuse. Là. On ne peut pas nécessairement l'avoir accès partout comme on veut. Gizmos, c'est quoi en fait? C'est un petit jeu qui utilise un mécanisme vraiment de engine building. Donc, ceux-là qui me connaissent le savent, je suis un gros fan de ce type de mécanisme-là. Donc, quand on réussit à faire des combines avec des cartes, trouver des synergies, puis trouver une espèce de combine qui va faire en sorte qu'on fasse plus de points que l'autre. Bon, des jeux comme Terraforming Mars le font, mais à grande échelle avec des jeux qui sont assez longs. Même un jeu comme Race for the Galaxy, qui est un jeu que j'apprécie particulièrement, qui utilise aussi ce style-là, d'essayer de trouver la combine puis l'exploiter le plus possible. Mais Gizmos le fait, mais dans une version toute compressée, avec un jeu qui dure environ 30 à 45 minutes. Au final, c'est un engine builder pur, donc on va construire une petite machine, puis ultimement, on va faire une machine à combo. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que le jeu est très, très, très accessible. Donc, contrairement à beaucoup de jeux d'engine building, comme j'explique tout le temps, Terraforming Mars, c'est un jeu qu'il y a beaucoup de pièces qui bougent, ça prend beaucoup de parties pour pouvoir bien comprendre, mais Gizmos, ça réussit à le faire dans une période super condensée. Le jeu est très simple, on pourrait le monter pratiquement avec n'importe qui. Il utilise un système d'icônes qui fait en sorte que même si c'est une version anglaise, il n'y a pas beaucoup de texte, là, on va voir les actions de base qui sont là, mais sinon, au final, Gizmos est très accessible, puis c'est quelque chose qui est assez rare dans ce type de jeu-là. Donc, dans Gizmos, quand les gens qui vont le voir vont pouvoir voir en premier lieu un distributeur à billes. Bon, ça fait penser un peu à un jeu comme Potion Explosion, même si, ultimement, le jeu est complètement différent. Donc, avec ces petites billes-là, on va pouvoir activer nos Gizmos, qui sont nos petites machines. Mais, souvent, selon les actions qu'on va faire, on va pouvoir augmenter nos actions, puis faire en sorte de faire des effets de chaîne. Donc, des réactions en chaîne. On commence, on fait une action, cette action-là va faire en sorte que je vais faire une autre action, qui va faire une autre action, puis là, si je prends une bille noire, ça va faire en sorte que je peux piger une autre bille noire, puis le jeu va partir en vrille comme ça. Mais, c'est vraiment intéressant de trouver les petites combines qu'on peut faire. Comme je dis, le jeu est assez simple, le jeu est assez, assez rapide à jouer aussi, mais bon, c'est certain que ultimement, c'est le genre de jeu qui, si on joue beaucoup, beaucoup trop, on va faire le tour un peu de tous les petits mécanismes, les petites combines qu'on peut faire. Mais ça reste que Gizmos est vraiment intéressant parce que, écoutez, même si vous jouez 10, 20 ou une vingtaine de parties, ben c'est rare qu'on joue 20 parties d'un jeu. Celle-là, il se fait rapidement, puis sérieusement, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à Gizmos, Kevin?
Non, mais... Ce jeu-là est sur ma liste, là. C'est clair. Un engine building, c'est toujours le fun. Là. Puis, il y a eu beaucoup de bons commentaires dessus. Puis, il n'est pas super cher. Hein? Je pense qu'il est comme une trentaine de dollars.
Ouais, non, c'est vraiment surprenant pour le prix. Puis, je dirais la qualité du matériel. Parce que le gros distributeur, les billes, c'est quand même assez tape à l'œil. Puis, visuellement, c'est super beau. Puis, pour le prix, je trouve que le jeu, il pack vraiment un punch. Parce que c'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir un jeu beau. Puis aussi qui va satisfaire un besoin de gaming qu'on peut avoir. Donc, moi, c'est mon besoin de faire des combines puis réussir à me sentir intelligent quand je fais un bon coup. Là.
Les billes sont-elles en plastique ou en verre?
En genre de plastique renforcé. Donc moi aussi, j'étais un peu déçu. Ça faisait pas le cling-cling espéré. Là.
Ouais, c'est un des trucs que j'avais entendu. Là. Mm.
Mais sinon, le matériel est vraiment génial. C'est magnifique.
Ouais, ben tu sais, dans le fond, en fait, ça fait réduire le prix. Fait que si ça peut être plus accessible, why not?
Voilà ça. Puis comme je dis, le jeu, il est intéressant aussi parce que c'est le genre de choses que d'habitude, tu t'attends à un jeu compliqué, puis celui-là, il est vraiment pas là. On pourrait le montrer. C'est même familial, à la limite. Si on veut jouer relax en famille, je suis certain que ça se fait, là.
Ah, ça, c'est toujours le fun.
Eh oui. Donc, c'est Gizmos, un petit jeu bien intéressant et pas trop cher en plus.
Ah, moi, mon prochain, c'est terriblement l'opposé pour le niveau de complication, de complexité. Avec Root, j'ai eu l'occasion de jouer l'autre fois. Je suis rendu à deux parties, une à 4 joueurs, une à 6 joueurs. À 6 joueurs, ça devient un petit peu long entre les tours là, parce que il y a quand même 5 autres joueurs qui doivent faire leur action. Puis dans Root, la grosse affaire, c'est que chaque faction est totalement asymétrique là, donc si tu veux apprendre le jeu à d'autres, faut à peu près que tu apprennes 5 jeux différents là. Il y a certaines actions qui vont être pareilles entre les personnes, mais chaque faction va avoir une façon de gagner totalement différente, puis une façon d'y arriver à gagner. C'est vraiment un jeu différent. Je pense que tu joues 5 parties, puis t'as pas l'impression d'avoir joué la même affaire. Je pense que c'est peut-être un petit truc. Le niveau de complexité n'a aucun rapport avec le beau petit design cute des animaux. Là. Puis en plus, c'est un jeu dans la catégorie Wargame, si on pourrait dire.
En fait, ce que j'ai entendu du jeu, c'est que c'est de magnifiques petits animaux qui veulent horriblement se détruire.
Ouais, t'as les grands méchants chats qui sont un peu le gouvernement qui... En fait, les grands méchants chats contrôlent la forêt au complet. Ils ont réussi à renverser les autres animaux qui étaient au pouvoir juste avant. Puis eux autres sont là pour couper tous les arbres de la forêt puis faire de l'argent. C'est un peu leur but. Ils vont faire des points en mettant des bâtiments puis en récoltant du bois puis en prenant contrôle de plusieurs territoires puis en gardant contrôle des territoires qu'ils ont déjà. À l'opposé, t'as aussi comme le peuple des oiseaux. Eux autres, c'est ceux qui étaient là déjà sur place avant. Et c'est eux autres qui se sont fait renverser. Il y avait un gros empire. Puis leur but, c'est de revenir à leur gloire passée. Le principe des oiseaux, c'est un peu un système de programmation. Dans le fond, chaque tour, tu dois rajouter une carte dans ta machine et exécuter toutes les actions en ordre. Je pense que c'est... Il y a mouvement, recrutement, bataille, puis construction. Une fois que tu as fait ces quatre actions-là, si tu n'es pas capable de faire une action dans ces quêtes, peu importe, si tu n'es pas capable d'exécuter une de tes cartes, ton empire crash. Et là, tu perds des points, ta machine repart à zéro, et ça fait mal. C'est presque certain que tu vas briser au moins une fois dans la partie, mais si tu brises, si tu fais pas attention, c'est vraiment dur de remonter là. Dans les autres factions, il y en a une, c'est le vagabond. Le vagabond, lui, il a seulement un pion sur la place, sur la carte, puis il se promène dans les forêts. Il va échanger, il va voler des objets. En fait, il va voler. Il va échanger des objets contre des cartes, donc donner plus de possibilités aux gens, tout en lui ayant des objets qui vont faire un peu sa machine. Parce que plus il y a d'objets, plus il peut faire d'actions. C'est avec les objets qu'il fait des actions. Il va pouvoir faire des quêtes aussi avec ses objets. Il faut, dans le fond, qu'il utilise des objets à certains endroits, puis ça va lui donner des points. Ça aussi, un vagabond que tu laisses aller, là, il peut devenir vraiment, vraiment trop fort. Puis dans le jeu de base, l'autre faction, c'est le Woodland Alliance. C'est, dans le fond, tous les petits animaux, tous les rongeurs, puis je pense les... Il y en a d'autres comme les renards.
L'alliance de la forêt.
Ouais, exactement. Eux autres, ils sont cachés. Ils commencent avec rien sur le plateau au début. Ils essayent de bâtir la confiance du peuple, puis de se rassembler, d'être comme plus... de pas trop paraître. Puis un moment donné, ils explosent, puis ils font une révolte dans une ville. Ils renversent tout. Dans le fond, quand il y a une révolte qui part, tous les pions ennemis, peu importe c'est quoi, des bâtiments, des bonhommes, tout s'en va. Il n'y a plus rien. Tout le monde est mort. Puis ça devient la nouvelle base d'opération pour l'Alliance. Puis ensuite, ils peuvent continuer à étendre leur sympathie, un peu comme les virus dans pandémie, là. Ils sont capables. Dès que t'en as un qui est parti, tu peux t'étendre. Puis là, ça devient exponentiel, là, comment ils peuvent s'en aller. Ils ont aussi une défaillance, là. S'ils se font attaquer, si leur base d'opération se fait attaquer, ils perdent des officiers, ils perdent beaucoup, beaucoup d'affaires, puis là, c'est dur à repartir eux autres aussi. C'est vraiment étrange parce que le jeu est super, super bien balancé, j'ai l'impression. Toutes les parties que les deux parties que j'ai jouées, à 4 et à 6 joueurs, on était tous très près dans les points jusqu'à la fin, ou à la fin, il y a vraiment eu des gros tours, mais c'est un peu normal vu que c'est là que les gens ont développé leur machine, puis ils savaient plus où s'en aller, puis ils avaient trouvé une façon de faire beaucoup de points, là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais jamais joué, j'ai pas encore joué à Vast, qui est la même compagnie. Mais Cold World a fait une super belle affaire. Puis en plus, le artwork de Kyle Ferrin, c'est super beau. C'est un beau style dessin cartoon, là. Ça fit super bien.
Ben, je trouve que l'artwork est pas très représentatif parce qu'on voit vraiment des beaux petits animaux, puis sérieusement, c'est méchant ce qu'ils se font.
Ouais, effectivement. Puis même les petits meeples en bois, là, au lieu d'être des cubes, c'est des petits meeples tout fermés d'oiseaux, des petites souris, des petits chats, puis ça a tout l'air cute. Puis finalement, c'est vraiment méchant comme jeu, là.
C'est un wargame déguisé.
Ouais, exactement.
Moi, pour ma part, Root, il y a beaucoup de monde qui en parle beaucoup. Je sais que David, le prof board game, il y a beaucoup d'éloges pour ce jeu-là. La plupart du monde que je connais qui ont joué ont vraiment tout buzzé sur ce jeu-là. Moi, personnellement, je sais pas, je suis peut-être anormal, mais j'ai pas un gros buzz sur Root. Bon, c'est certain que je vais vraiment à contresens à peu près tout le monde, mais je sais pas, ce jeu-là m'intéresse pas tant que ça. Déjà là que Vast, c'était comme... Peut-être bien que c'est à cause que aussi je suis le gars qui explique les règles d'habitude. Fait que apprendre à jouer à Vast, c'est apprendre à jouer à 5 jeux différents, puis ça ne me tentait pas de me donner le trouble de faire ça. Même chose avec Root, je sais pas, j'ai l'impression que avant d'avoir vraiment joué au jeu, il faut que tu aies joué probablement à chacune des factions pour que tu comprennes comment ça marche. Puis il faut que tu l'aies fait probablement avec le même monde avec qui t'étais, parce que sinon, ben, ça va être débalancé. Il y en a un qui sait comment jouer. Là, le vagabond, il finit par faire une alliance, puis il s'en va plus gagner. Tu sais, il y a plein de petites intricacies, des petites choses comme ça qui viennent. Ah, qui, je sais pas, qui me travaillent sur Root, là. Je suis pas convaincu vraiment. Mais je sais que tout le monde a joué, puis tout le monde aime ça, là.
Mais ouais, ben, en fait, même pour apprendre le jeu, c'est quand même pas si pire. Moi, les 5 factions, en fait, une fois que tu as joué une fois, là, tu comprends comment chaque fonction fonctionne. C'est sûr que t'as pas joué avec, fait que t'sais, t'as pas tout compris, puis t'as pas tous les détails, parce qu'essayer de suivre puis tout connaître des 5 factions, là, ça serait... c'est un peu fou, là. Nous autres, on laissait les gens aller, puis apprendre leur faction, puis ça a quand même super bien été.
Puis j'ai l'impression aussi qu'un jeu comme ça, à 2 ou 3 joueurs, il va perdre de quoi? Y a des jeux comme, ben moi, un jeu que j'aime beaucoup, Chaos in the Old World, si on n'est pas 4, le jeu, il est comme débalancé. Le jeu est fait pour avoir 4 factions qui vont comme se balancer l'une et l'autre. J'ai l'impression que dans Root, je sais pas, as-tu vu quelque chose qui pourrait ressembler à ça? Mais j'ai l'impression que, il me semble qu'à jouer avec moins que le player count maximum, là, ça serait bien ordinaire.
Ouais, je pense qu'à 2, c'est moyen. Mais j'ai vu des gens dire qu'ils aimaient vraiment beaucoup à 3. Puis à 4, okay. Je l'ai testé, c'est bien. Là. Mais je pense qu'en fait, les gens aiment beaucoup plus à 3 puis à 4. Je pense que c'est plus balancé comme ça.
Ok. Puis la durée de ta partie, c'est après combien de temps pour les parties à 4 ou à...
Je dirais la partie à 4, je pense qu'elle nous a duré 2 heures avec explication.
Ok, avec explication, que c'est quand même
ouais. Bien. La partie à 6, peut-être 2 heures et demie. Ça nous a paru un petit peu plus long, là, parce que vu que t'as comme 5 personnes qui font des tours avant toi. Là,
ouais, mais... c'est certain que...
Mais il me semble que c'est ça. C'est à peu près... Ça a peut-être été à 3 heures avec les explications.
Il va peut-être falloir, un moment donné que je m'assise et j'essaie de regarder, mais sinon, de base, c'est un des rares jeux que je suis pas vraiment hype pour. Là.
Ouais.
Faut vivre avec ça un peu des fois.
Ah. Moi, j'ai bien hâte de rejouer. Surtout avec les factions d'extension que j'ai vu jouer, je me suis battu contre, mais que j'ai pas pu essayer encore. Là.
Je sais pas, c'est les loutres et.
Ouais, les loutres puis les lézards. Un culte. Dans le fond, il y en a un, c'est un culte religieux qui essaye de recruter des gens. Puis l'autre, les loutres, c'est des banquiers. Ils engagent, dans le fond, eux autres, ils ont des mercenaires, puis tu peux, les gens peuvent acheter avec des unités, des mercenaires ou des cartes pour comme se booster pendant leur tour.
Root me fait penser à un petit cartoon qui s'appelle Happy Tree Friends. Est-ce que tu connais, Kevin, Happy Tree Friends?
Ouais, je connais ça.
Pour les gens qui connaissent pas Happy Tree Friends, c'est un beau petit cartoon avec des beaux petits animaux de la forêt qui se font mutiler de manière pas possible. Il faut jamais qu'un enfant tombe en face de ça parce que sinon, ça va ruiner sa vie. Mais en tant qu'adulte, c'est vraiment drôle. Ça fait longtemps que j'ai écouté ça, mais Root me donne vraiment ce feeling-là de Happy Tree Friends.
Ben, je pense que Root est un petit peu moins violent. En tout cas, il y a beaucoup moins de sang dedans.
Hey, sinon, à part après Root, moi, j'ai joué à un jeu, écoute, je dirais pas un vieux jeu parce que là, ce serait vraiment... on vit dans un monde de nouveautés. Puis de temps en temps, ça fait du bien de retourner quelques années en arrière, même si ça fait pas longtemps. C'est le jeu Steampunk Rally qui est sorti en 2015. Donc Steampunk Rally, c'est quoi en fait? C'est un petit jeu où on va... En fait, c'est une course avec des engins steampunk. Donc on va se fabriquer une machine steampunk avec différents inventeurs. On va essayer de la fabriquer avec un système de draft. On va essayer de placer ça sur notre machine, de faire en sorte qu'elle se tienne. Puis on va générer des actions qu'on va pouvoir utiliser avec des dés. Ça peut sembler bien compliqué comme ça, mais en vérité, c'est un petit jeu très accessible qui est vraiment génial. Le design graphique a été fait par Mr. Cunnington. En fait, c'est probablement un des premiers projets que Mr. Cunnington a fait. C'est en collaboration avec Roxley Games. Le jeu n'a pas eu un si gros succès que ça, je dirais. Sur Kickstarter, ça a été réussi, mais c'est pas le genre de jeu qu'on entend souvent parler ou que tout le monde affiche toujours des photos de jeu. Là. Mais je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, ça faisait un bail que j'y avais pas joué. Puis sérieusement, je trouve ça vraiment génial comme petit jeu. Encore là, un petit côté d'engine building, on va essayer de fabriquer notre machine pour pouvoir essayer de placer des dés, pour pouvoir générer des actions. Fait que, comme mon plaisir personnel, c'est d'avoir justement les engine builders, mais c'est après ça qu'on va faire. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un jeu de draft. Donc, tout le monde va jouer de manière simultanée et tous en même temps. Le jeu se joue de 2 à 8 joueurs et ça prend de 35 à 45 minutes, peu importe le nombre de joueurs. Donc, ça dépend toujours comment ça va aller, des joueurs qui jouent un peu plus vite. Mais en gros, j'ai déjà joué à 7 à 8 joueurs puis les parties ont duré 45 minutes. Sérieusement, il n'y a pas beaucoup de jeux de ce type-là qui peuvent se vanter d'avoir un fait d'armes comme ça puis de ne pas durer longtemps. Mais pas durer longtemps, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas le fun parce que c'est une petite course enlevante puis après avoir fait notre course, on a juste envie d'en refaire une autre partie. Steampunk Rally est un jeu qui gagne à être connu et je sais, j'ai su de sources sûres, c'est-à-dire de Mr. Cunnington eux-mêmes, qu'il allait avoir une extension très bientôt sur Kickstarter. Je me suis dit que c'était le bon moment pour me réintéresser au jeu, puis en même temps, ben, si jamais vous pouvez le découvrir juste un peu avant que l'extension arrive, sérieusement, ça vaut vraiment la peine. J'ai pas réussi à avoir de scoop sur qu'est-ce que l'extension va contenir, mais par exemple, c'est certain que directement quand ça va sortir, je vais cliquer et je vais mettre mon petit back parce que je vais suivre cet événement-là avec grand intérêt. Toi, Kevin, as-tu déjà joué à Steampunk Rally?
Effectivement, j'ai déjà joué. J'ai backé aussi la version Kickstarter là, quand il est sorti.
C'est important parce qu'on a des petits cogs métalliques qui sont vraiment awesome.
Ouais, ça, puis les dés, en fait, sont translucides. Ouais, c'est vraiment un super de bon jeu. Moi, avec, là, j'avais trippé quand c'est sorti. Je sais pas, brasser tes dés, essayer de t'arranger, essayer de trouver les cartes qui vont faire que même si tu commences avec juste 2 ou 3 dés, mais là, tu vas finir avec comme une dizaine dans ta machine parce que tu as réussi à en générer plein. Ah, il y a comme plein de petits combos super le fun dedans. À la fin, en plus, c'est super drôle parce que tu peux pousser ta machine puis juste tout perdre les morceaux de ta machine, mais c'est pas grave, t'as passé la ligne d'arrivée. Ta machine a explosé puis il reste juste ton cockpit, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça?
Oui, en fait, quand on essaie de prendre un tournant un peu trop, prendre un petit raccourci, ça fait en sorte qu'il y a eu du terrain qui nous donne beaucoup de dommages, ça fait en sorte que notre machine s'émiette, mais réussir à traverser la ligne d'arrivée avec genre juste le cockpit, là, on a fait une partie à la fin que ça avait été vraiment cause à effet, là, puis ça avait fait en sorte que j'avais gagné, mais justement, littéralement sur la fesse de mon cockpit.
Ouais, on avait eu une fin comme ça, nous autres aussi, je pense que j'avais... Il y a une des cartes que c'est comme un blast, puis si tu l'utilises, ça donne des dommages aussi. Je pense à chaque fois que tu utilises un dé dessus. En tout cas, j'avais plus assez de boucliers. Puis il y avait quelqu'un qui a passé la ligne d'arrivée. J'ai réussi à faire ça. Je l'ai dépassé, mais les deux, on avait notre machine qui était toute brisée à la fin. Là. J'avais réussi à la faire survivre tout au long de la course, mais une fin explosive un petit peu.
Ça m'est déjà arrivé aussi de faire une machine super grosse, puis là, hey, j'ai vraiment la machine parfaite, puis finalement, au final, je me suis fait complètement battre par justement un petit engine qui a décidé de couper les coins ronds, puis de pouvoir finir la partie encore là avec pas grand morceau.
Ouais.
Mais non, Steampunk Rally, ça, c'est vraiment un petit jeu très intéressant, peu connu, que je vous suggère de connaître.
Ouais, moi aussi, c'était une recommandation à connaître. Moi, bon, un autre jeu que j'ai joué. J'ai joué à Spy Club. Spy Club, il est sorti... J'ai pas l'impression qu'il y a eu un super de gros buzz dessus. C'est un genre de... Je sais pas trop comment dire, mais c'est un thème un peu familial. Dans le fond, on joue des enfants qui vont essayer de résoudre une enquête. Tu vas essayer de trouver un lieu, une raison, un objet du crime, un motif. Ouais, c'est le motif. Puis il y a une autre affaire aussi que je me souviens pas. Puis c'est drôle parce que à chaque fois que tu vas résoudre un indice, une catégorie d'indices, t'as comme une histoire qui apparaît de toute seule. T'as même pas besoin de chercher fort, là. Il y a une petite histoire qui apparaît. Des fois, ça peut être comme des jumelles qui sont allées dans un centre de crème glacée puis qui ont décidé de voler un radio. T'sais, t'as comme plein de petites affaires qui vont monter une histoire. Le principe du jeu est vraiment pas compliqué non plus. Je pense que c'était familial. Là. C'est Renegade Games qui l'a publié. Seulement en anglais pour l'instant. Puis, c'est intéressant. Dans le fond, t'as les cartes. Ils ont toutes des couleurs. Les deux côtés sont utilisés. Les couleurs sont différentes de chaque côté. Ils vont être dans une rangée. Ce que tu veux, c'est prendre des cartes, les mettre en avant de toi. Puis ensuite, essayer de les retourner de la couleur que tu vas avoir besoin. Puis d'envoyer, de ramasser 5 cartes de la même couleur et les envoyer comme sur dans ton tableau. Dès que tu as 5 cartes, il y a une de ces cartes-là qui va être envoyée dans ton enquête finale. Puis ça va être, dépendamment de la catégorie, là, il y a 5 couleurs. Je pense que c'est jaune, rouge, mauve, bleu, puis vert. Chacun représente une des catégories. Donc à la fin, dans tes 5, ça va tout être des cartes différentes. T'en prends une, puis ça va être justement l'objet. Ton but, tu dois terminer avant que le suspect s'en aille, et réussisse à s'échapper, ou que tu aies passé à travers tous tes indices, ou que tu aies passé à travers toutes tes idées, parce que tu vas pouvoir réussir à ramasser des petits tokens d'idées. Puis ça va t'aider à être plus flexible dans ce que tu peux faire. Ouais. À des fois, je pense qu'il y a même un petit effet de mémoire aussi en essayant de te rappeler quelle couleur est en arrière de quelle carte qui est en avant de toi. Parce que tu pourras. Une fois que tu l'as retournée, tu dois la retourner encore pour si la couleur que tu avais besoin était à l'envers. Puis le suspect, il peut faire flipper tes cartes. En tout cas, c'est. Il y a comme plein de petites choses, mais le jeu est super simple. Il y a comme juste 5 actions possibles. Fait que ça va super vite. Une fois que la partie commence à rouler, là, ça va super bien, puis ça se joue. C'est très familial. J'ai bien aimé. J'ai hâte de réessayer ça.
J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, même que je connais pas grand-chose sur ce jeu-là. Je sais qu'on a un ami, Steve, qui l'a aussi, puis qui a bien aimé le jeu, mais moi, je sais pas, j'avais pas rien entendu, mais Renegade Games a une bonne réputation. Fait que je serais porté à croire que ça doit être un projet qui doit être assez intéressant. Il va falloir que j'y jette un coup d'œil.
Ouais,
est-ce que c'est plus familial? Est-ce que c'est jouable avec des plus jeunes ou même en gamer, ça peut rester intéressant?
En fait, en gamer, je pense que ça reste quand même très intéressant. Puis, si je me souviens bien, il y a des niveaux de difficulté. Ah oui, mais la grosse affaire du jeu, c'est que si tu joues plusieurs parties, tu peux jouer dans un style de campagne. Puis, il y a comme je pense que c'est une quarantaine de modules différents. À chaque fin de partie, tu vas comme débloquer un module. Puis ça va rajouter quelque chose dans le jeu. Puis tu vas faire comme une couple de parties comme ça. Puis à la fin de chaque partie, tu vas rajouter des affaires. Fait que s'il arrive, si tu fais tel choix pour débloquer tel truc en premier, ben là, c'est ça qui va arriver. Puis ça va continuer pour ta prochaine partie. Tu fais ça pendant une couple de parties. Puis là, tu vas avoir joué comme une espèce de campagne unique. Puis ensuite, tu peux recommencer. Puis faire des trucs différents. Puis ta partie va finir par être différente parce qu'elle va avoir eu des modifications différentes à chaque fois. Un genre de legacy, mais que tu peux rejouer.
Ok. Ah, mais ça rajoute un petit quelque chose d'intéressant, ça.
Ouais.
Un petit concept qui est amusant quand même, même si c'est pas vraiment un vrai de vrai legacy, là, mais d'avoir une campagne qui peut changer, puis que bon, les choix sont pas permanents, donc on peut recommencer. J'avoue que c'est une bonne idée.
Ouais.
Ben. Il faut que je jette un coup d'œil. Un autre à rajouter sur la wishlist.
Un autre.
Oh non.
Ça finit encore jamais. Un autre. Ça finit jamais.
Sinon, moi, j'ai. T'as-tu terminé pour Spy Club?
Ouais, ouais.
Ok. Sinon, moi, j'ai joué à mon jeu favori, Terraforming Mars. Parce que je vais le dire assez de fois par épisode que vous allez finir par le savoir. J'ai eu l'occasion d'essayer l'extension Prélude. Prélude, c'est une toute petite extension. Il y a même beaucoup de monde qui trouve que c'est assez cher pour ce que ça peut contenir. Mais moi, si ça a le nom Terraforming Mars sur la boîte, ben franchement, je me fous un peu du prix. Je veux l'avoir. Qu'est-ce que ça rajoute, Prélude? En fait, c'est un nouveau... Avant la partie, on se le dit, Prélude, on va avoir des cartes. Donc, chaque joueur va recevoir 4 cartes de Prélude. C'est quoi ces cartes-là? C'est des cartes qui vont donner un bonus instantané en début de partie. Ça peut monter ta production d'un coup, ça peut commencer, ça va aussi te donner une idée vers quelle stratégie tu peux aller. Donc, avec le choix de la corporation, encore là, il y a quelques autres corporations qui arrivent, on va pouvoir maintenant sélectionner une corporation de Prélude ou une normale, des autres extensions qu'on peut avoir. Puis, ultimement, ce que ça fait, c'est que ça nous donne un boost de début de partie. Avec ce boost-là aussi, ça va pouvoir nous orienter, savoir si on fait de la production d'une ressource. Donc, exemple, on ferait une production de steel un peu plus, mais à ce moment-là, on va pouvoir s'orienter vers là. Ça donne un petit but. On n'est pas obligé de suivre ça pour pouvoir faire des points ou pouvoir gagner la partie, mais ça donne vraiment un bon kick. Le fait qu'il y ait 4 cartes au début, on va en choisir 2, ça fait en sorte qu'on peut moduler un peu ce qu'on va avoir comme départ, puis quel type de game qu'on veut avoir. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer toutes les cartes Prélude. J'ai joué à date 3 parties seulement avec les nouvelles cartes. Fait que je pense même pas avoir fait le tour de toutes ceux-là. Je peux pas dire, bon, telle ou telle sont vraiment intéressantes. À chaque fois, tout le monde a toujours été agréablement surpris avec les bonus qu'il y avait en début de partie. Je dirais que ça donne un petit kick à la partie. La partie va peut-être durer moins longtemps. D'ailleurs, dans le mode solo, ce que ça fait, c'est qu'étant donné qu'on a un boost de départ, on a juste 10 générations pour pouvoir compléter notre partie solo. Ça fait en sorte que la game est vraiment plus courte et beaucoup plus difficile à pouvoir justement réussir ses objectifs de pouvoir terraformer la planète. Sinon, je pense que Prélude, c'est pas nécessairement un must là, pour tous les joueurs, mais ça va donner un bon coup de départ, puis ça fait en sorte que la partie... Souvent, bon, il y a des gens qui trouvent que le début de partie, c'est tout le temps un peu long, oh, ça prend du temps avant de pouvoir faire ses ressources, faire sa production, puis se préparer, mais ça donne vraiment un bon coup, puis ça va commencer la partie férocement. Est-ce que tu as essayé Prélude, Kevin?
Non, j'ai pas essayé, j'ai pas eu l'occasion.
As-tu essayé Terraformers?
Ouais, okay, plusieurs parties.
C'est excellent.
C'est super bon.
Je suis certain.
Ouais, ouais. Ah, c'est excellent.
As-tu eu l'occasion d'essayer les extensions Vénus ou les cartes?
Non, non plus.
OK. Bon, vite, pour vous donner un petit topo, moi, j'ai joué presque une trentaine de parties de Terraforming Mars. Je dirais qu'au début, le jeu de base est tout à fait suffisant. Après une dizaine de parties, les cartes, nouvelles cartes peuvent être intéressantes parce que c'est vraiment un plateau réversible. Donc, on a vraiment là, des nouvelles milestones puis des nouveaux awards. Le jeu ne change pas tant que ça, mais ça rajoute un peu de variété. Après ça, il y a Venus Next qui rajoute beaucoup de cartes puis qui rajoute un nouveau plateau. Encore là... Je dirais que si on n'est pas des joueurs aguerris de Terraforming Mars, c'est pas nécessairement très utile en tant que tel. Prélude, par exemple, je serais porté à dire que même si quelqu'un a joué à Terraforming Mars deux ou trois parties, trouve ça intéressant, peut-être un peu long, connaît pas trop toutes les stratégies, mais Prélude va vraiment donner un bon kick. Puis aussi, il y a certaines personnes qui aiment ça se faire... Ben, je ne veux pas patronner en disant prendre par la main, mais ça donne une idée. Écoute, hey, cette partie-là, si tu veux, tu peux peut-être faire plus de plantes parce que je te donne une production de plantes de 3 en commençant. Ou encore là, ben, cette partie-là, ben, tu vas commencer avec une production d'argent plus imposante. Fait que là, tu vas pouvoir choisir des cartes qui vont être un petit peu plus chères. Fait que ça va vraiment donner un bon coup. Si on me disait, j'ai juste une chose à acheter en plus du jeu de base, je dirais au monde d'aller acheter Prélude parce que ça donne vraiment, vraiment de la plus-value au jeu.
Ah non, je vais être obligé d'aller l'acheter.
Et effectivement.
Un autre sur la liste.
Et voilà.
On fait juste s'aider à rajouter des items sur nos listes.
Ouais, finalement, ça n'est pas pantoute notre affaire.
C'est un aide mutuel.
Ouais, c'est ça.
Ah. Mais moi, mon prochain, il coûte vraiment pas cher. C'est High Society. Je l'ai vu disponible à des places là, à 16$. C'est pas mal le prix que j'ai payé. Un petit jeu de cartes de Reiner Kenedia, notre docteur qui a fait je sais pas combien de jeux, mais beaucoup, vraiment beaucoup.
Beaucoup de jeux.
Ce jeu-là, je m'attendais pas à grand-chose, puis j'ai terriblement resté surpris par la profondeur des choix que ça donne, là, puis l'espèce de... C'est vraiment le fun. Là. C'est un petit jeu d'enchères fixe, je dirais, fixe par les cartes, puis ce que tu peux biter dans, ce que tu peux bêter dans le jeu. Dans le fond, tout le monde commence avec les mêmes 11 cartes. C'est des cartes qui varient, c'est avec un montant différent. Ça va de 1 à 25. Je pense que ça passe, c'est genre 1, 2, 3, 4, 6. Puis ensuite, ça monte à 8, 10, 12. Les deux dernières cartes, c'est 20 et 25. La grosse twist du jeu, c'est qu'à chaque tour, on va flipper une carte. Il y a des cartes de 1 à 10 qui vont être comme les points que tu vas faire à la fin. C'est relié à un thème, mais on parlera pas de ça. Je m'en souviens pas. J'ai pas vraiment porté attention.
Mais disons que le thème est assez secondaire à Society.
Ouais, ben, la plupart des jeux de Reiner Kenedia sont plus abstraits. C'est surtout des jeux avec des cartes puis des chiffres, mais je sais pas, son gameplay est toujours super intéressant. Tout ce qu'il peut faire avec si peu de trucs, là. Donc, il y a des cartes de 1 à 10. Il y a deux ou trois cartes, je pense qu'il y a trois cartes d'un multiplicateur de 2. Il y a une carte qui coupe en deux. Dans le fond, c'est une carte une demi. Ça, c'est une des mauvaises cartes. Une autre mauvaise carte, c'est une carte que, quand tu la gagnes, tu dois défausser une de tes cartes de points. Et si tu n'en avais pas encore, tu défausses la prochaine carte de points que tu vas gagner. Et il y a une autre carte, c'est 1-5. Donc, à chaque tour, on va mélanger ces 14 cartes-là. Puis à chaque tour, on va en piger une. Si c'est une carte positive, soit qui te donne des points ou 1x2, on va faire une enchère régulière. Donc, celui qui va gagner, c'est le dernier qui va avoir mis le plus haut montant. Donc, on va choisir une des cartes d'un au moins, on la met devant soi. Mettons que je mets le 2, mais là, le prochain joueur, il doit mettre plus que 2. Et ainsi de suite. Quand ça revient à mon tour, je peux... Puis qu'il y a quelqu'un qui a mis plus d'argent que moi, mais je dois rajouter une carte si je veux continuer de ma main. Je peux pas reprendre la carte que j'ai mis pour en mettre une plus grosse puis économiser des cartes dans ce moment-là. Donc, je dois toujours juste remettre plus avec les cartes que j'ai dans mes mains. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'en fin de partie, à des fois, tu vas mettre un certain montant, tu vas dire « Ah, c'est à peu près le montant que j'aimerais payer. » Mais là, le prix monte, puis là, oups, la seule carte que tu peux rajouter, c'est un 10 000 de plus. Sauf que l'autre, il t'a juste battu de 2 000, mettons. Ça peut causer des petites affaires super intéressantes comme ça. Puis, l'autre petit twist, c'est que les cartes négatives, donc le défausser une carte, le diviser son score par la moitié et le moins 5 points, eux autres, c'est une espèce d'enchère inversée. Celui qui va la gagner, c'est la première personne qui va passer. Donc, si je la veux vraiment pas, je vais mettre de l'argent et tout le monde va mettre de l'argent. Et la seule personne qui va récupérer ses cartes, c'est la personne qui a gagné la carte. Parce que c'est lui qui a passé. Donc, il reprend ses cartes d'argent et tout le reste vont défausser leurs cartes qu'ils ont mis. Donc, dans le jeu, faut que tu gardes ton argent pour ces cartes négatives-là et pour assez pour les cartes positives. Parce qu'en plus de ça, un autre petit twist, c'est qu'à la fin de la partie, tout le monde va regarder l'argent qui leur reste dans leur main. Et la personne qui lui reste le moins d'argent est juste éliminée. Qu'elle ait des points ou pas, cette personne-là est éliminée du score final. Et ensuite, on va compter les points. Puis là, la personne qui a le plus de points va gagner. Et ça aussi, donc tu dois surveiller qu'est-ce que les autres dépensent. Essayer de vérifier si... Est-ce que mettre un 5 ou un 10 000 de plus, ça va être toi qui va avoir le moins d'argent et que tu vas être éliminé? Est-ce que tu veux ça? Ou tu t'arranges pour que celui qui a ramassé le plus de cartes, mais qui a le plus dépensé, mais il se fasse éliminer, donc là, toi, tu veux juste avoir le deuxième meilleur score. Ça fait vraiment une belle petite twist. Puis il y a des fois, juste, tu peux essayer de monter le score, de monter l'enchère, puis espérer que l'autre d'après toi, il veut la carte vraiment plus que toi.
Ouais, mais tu as réussi à le faire payer. En mettant plus d'argent, puis en finissant la partie, en étant la personne qui a le moins d'argent, et en étant éliminé. Donc, voici mon expérience de jeu avec High Society. J'ai été ce dernier gars-là qui avait plein de cartes, mais qui avait plus d'argent.
Ouais, ça arrive. Surtout, je pense qu'on avait juste joué à 3.
Oui.
Ouais. Quand tu joues à 5, là, ça devient. Là... Ah, c'est. Il y a des fois, tu dis, ah, ok, non. Je me retire tout de suite. Ah non, je me retire tout de suite. Ça sert à rien. Ah. Puis il y a toujours quelqu'un qui met trop d'argent.
Mais c'est bien d'avoir un jeu qui offre des choix intéressants parce que malgré la simplicité du jeu, c'est quand même des petits détails qui font en sorte que le jeu est intéressant. Le côté mécanique, les mécanismes de jeu-là sont quand même très très bien placés. Pour un petit jeu de cartes qui vaut à peu près 16$, bon 16 à 20$, sérieusement, High Society, ça pack un punch.
Ouais, vraiment. Ouais.
Donc moi, je l'ai bien aimé. Je ne l'ai pas encore dans ma collection. En fait, j'hésite à savoir lequel de ces petits jeux-là. Parce que je trouve que c'est le genre de jeu qui passe avec des comptes de joueurs assez élevés quand même. Je pense à High Society, on peut jouer à combien?
High Society, c'est de 3 à 5.
De 3 à 5, bon. Moi, ce type de jeu-là, j'y compare souvent à For Sale. For Sale, ouais, qui est un jeu qui date beaucoup, mais qui pour moi est vraiment un standard dans le type de jeu que c'est rapide à expliquer, t'as des choix intéressants. Je dirais que High Society est peut-être un peu plus gamer que For Sale.
Ouais, ouais.
Mais For Sale, pour moi, ça reste un barème. Puis récemment, j'ai découvert Philou, le chat dans le sac, Felix, the Cat in the Sack, qui a été changé par Felicity, the Cat in the Sack, pour des droits d'auteur. Kevin, as-tu déjà joué à ce jeu-là?
Non, j'ai pas joué encore.
Un petit jeu encore là d'enchères. Ce qu'on va faire, c'est que justement, on va enchérir. Puis un peu comme High Society, bon, il y a des choix qu'on va faire qui vont faire en sorte qu'on va peut-être avoir des cartes négatives ou des cartes positives, des choses comme ça, pour t'aligner notre score final. Un autre jeu intéressant, mais je pense que High Society a peut-être plus de rejouabilité, puis plus de couches différentes à son. De cordes à son arc, je dirais.
Ouais, ouais. Mais je pense aussi. Moi, je sais pas si je jouerais avec vraiment des très novice. Malgré que la gang avec qui j'ai joué le plus à date, c'est ma gang d'amis à l'école. Je lui ai montré ça, c'est des non-gamers. J'ai commencé à les faire jouer comme l'année passée à 6 qui prend. Là. Puis ils jouaient à Uno avant.
Okay.
Donc avec 6 qui prend, maintenant on joue à... Je les ai amenés à High Society l'autre fois, juste pour essayer. T'sais, je me suis dit, c'est pas super compliqué à apprendre, puis il y a quand même des choix super cool. Et ça a terriblement pogné. Là. Je pense qu'on a joué comme 25 parties là, en 3 semaines. Là. C'est...
Ah, c'est un fait succès.
C'est un succès. Je pense que...
Puis ça, ils s'en rendent même pas compte qu'ils jouent un jeu un peu plus avancé que ce qu'ils devraient.
Non, effectivement. Puis ouais. La stratégie se développe, là, puis de partie en partie, il y en a qui essayent de changer un petit peu, puis d'améliorer. Là. C'est vraiment bien.
Non, mais ça, c'est pas évident. Comme je dis, moi, j'ai juste une partie au compteur, fait que j'ai pas le mérite d'avoir joué autant que toi.
Ouais.
Ah, il va peut-être falloir que je réessaye. De toute façon, avec le prix aussi, c'est un incitatif. C'est un jeu qui est quand même assez accessible, donc ça s'achète bien.
Ouais, ouais.
Ou ça s'offre bien en cadeau pour des gens qui jouent un peu moins.
Ouais, ça aussi.
Sinon, en parlant d'un jeu qui est totalement l'opposé de High Society, High Society est un petit jeu de cartes sympathique. Le prochain que je veux vous parler est complètement l'inverse. C'est un gros projet. Ça vient d'un Kickstarter qui a été fait l'an dernier. C'est le jeu Lords of Ellis. Lords of Ellis, c'est un jeu avec un gros plateau, du gros plastique, des grosses figurines. C'est un jeu qu'on appelle Ameritrash. Bon, pour beaucoup, le terme Ameritrash est super péjoratif. Souvent, les joueurs d'euros, donc les gens un peu plus mécanisés, portés sur des jeux moins de thèmes, c'est pas trop des fans d'Ameritrash. Mais celui-là, il a de l'air d'un Ameritrash, mais il n'est pas tant que ça au final. Parce que souvent, bon, ce type de jeu-là est fait avec bon, beaucoup de dés, beaucoup de hasard comme ça. Là, il est un peu plus technique. Mais ça n'enlève pas au fait qu'il y a des miniatures absolument magnifiques. Le jeu est un qu'on appelle un dudes on the map. Donc, il y a des personnages sur une carte. Souvent, le type de jeu qu'on connaît, qu'on a vu, ou même comme risque à la limite que les gens ont joué dans le temps. Mais le jeu a plusieurs cordes à son arc. De base, Lords of Ellis, on peut gagner de plusieurs façons différentes. On peut gagner en du contrôle de territoire. Donc, si nos unités contrôlent un certain nombre de territoires, justement des petits continents comme ça, la partie va se terminer immédiatement. Il faut faire attention parce que ça peut amener à des victoires surprises avec des joueurs qui sont en train de prendre tranquillement pas vite, ouf, un petit coin par-ci par-là, puis ça va faire en sorte que la game va être beaucoup plus rapide qu'elle devrait être, mais il faut vraiment voir le plateau de jeu. Mais c'est pas la seule façon de gagner. Souvent, ce genre de jeu-là, c'est comme ça qu'on va gagner, la dominance, s'établir de manière militaire. Mais dans Lords of Ellis, ils ont décidé de rajouter une autre couche. En gros, c'est un univers mythologie grecque, un peu sci-fi. On peut voir d'ailleurs des personnages avec une épée, puis un lance-flamme, puis des choses comme ça. Fait que c'est un look très, très spectaculaire, je dirais.
Ouais, ben, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, si je me souviens bien, c'est que c'est comme si des aliens avaient débarqué, des extraterrestres avaient débarqué, puis qu'il y avait. C'était. Tous les monstres de la mythologie, c'était un peu des extraterrestres avec. Super technologique, là.
Ah, mais c'est intéressant, ça. Je savais pas le thème qu'ils voulaient chercher.
Ouais, puis les héros aussi, si je me souviens bien, là, puisque c'est eux qui ont comme des suits. Super modifié.
Oui, mais Achille d'ailleurs qui est assez très très badass avec justement une épée puis un lance-flamme qui chauffe l'épée à blanc. Là.
Ah ouais, c'est ça.
Le look
Si je me souviens bien, c'était ça le style qu'ils ont essayé d'aller chercher. Un peu extraterrestre qui arrive dans le temps grec. Qu'est-ce que ça ferait?
Mais ce que j'ai aimé de Lord of Ellis, comme je disais, c'est que avec le look qui habituellement est relié avec des jeux de combat, ben là, si on veut, oui, on peut avoir la section combat, mais sinon, on a des méthodes alternatives de gagner. Le jeu se fait sur deux paliers. T'sais, il y a les petits personnages qui sont les hoplites, les unités au sol. Eux autres, ils vont se battre entre eux autres pour le contrôle des territoires. On a également des héros, mais les héros, eux autres, on a un héros qu'on va avoir. Eux, ils ne vont pas nécessairement être là pour se battre. Ils vont pouvoir inspirer puis amener des bonus sur leurs unités au combat. Mais eux, à prime abord, vont viser les monstres. Donc, les monstres mythologiques qui sont débarqués, ils se promènent sur le plateau de jeu. Ils peuvent créer des dégâts, mais ultimement, eux, leur but, c'est d'aller attaquer les héros. Des fois, ils vont marcher puis ils vont détruire quelques unités, mais leur but en tant que tel, c'est vraiment pas les mortels. Ils vont vraiment viser les héros. Donc, il y a une espèce de jeu à deux paliers, parce que là, t'as le commun des mortels qui sont sur le plancher, puis qui vont se battre, mais t'as les héros qui vont se promener, qui vont essayer de les inspirer, leur donner des bonus, mais qui vont également essayer d'aller affronter les monstres. Parce que quand on va vaincre des monstres, on va devenir un héros. Et on va avoir accès à des bonus qui sont vraiment intéressants. Ça veut dire que si on veut pas nécessairement se battre, on peut simplement prendre nos héros et affronter les monstres. En affrontant les monstres, si on réussit à vaincre 3 monstres, on va pouvoir gagner la partie. Fait que si on veut complètement pas se battre, ben on s'en va vers là, on se dit on va utiliser une autre stratégie différente, on va essayer d'aller de prendre des cartes de combat pour pouvoir aller faire la chasse, la hunt qui appelle, pour pouvoir aller vaincre les monstres. Mais c'est pas la seule façon, parce que si on veut aussi, il va y avoir des temples qu'on va pouvoir découvrir sur le plateau de jeu, et si on contrôle 5 temples à la fin de notre tour, on gagne immédiatement la partie. Encore une fois, là, ça devient plus avantageux d'aller contrôler certaines zones, mais c'est une autre façon qu'on a de gagner. Et sinon, absolument de manière majestueuse, parce que là, j'expliquais, il y a le héros, il y a les figurines qui sont assez grosses, les monstres mythiques. Il y a également les monuments. Donc, les monuments vont être des temples qu'on va construire qui vont toujours nous donner des bonus. On va placer nos prêtres sur différents étages des différents monuments et on va gagner des bonus permanents à notre héros. Ce qui est intéressant avec ces monuments-là, c'est qu'on va les construire tout au courant de la partie. On va leur monter, puis étage par étage, il y a 5 étages à chacun des monuments. Puis un coup, le monument est monté, sérieusement, ça fait une figurine qui est absolument gigantesque et vraiment, vraiment tape à l'œil. Ben là, les monuments, c'est également une façon de pouvoir gagner. Si on réussit à rester, je pense, 4 tours ou 5 tours, il faudrait que je vérifie, à garder un monument qui est complété, à ce moment-là, on va gagner la partie. Fait que le jeu a vraiment beaucoup de façons de pouvoir gagner, puis ça rend le jeu très intéressant parce qu'il n'y a pas une stratégie qui va gagner. Il faut s'adapter, il faut essayer de se faire un plan de match puis de voir comment ça va aller. Toi, Kevin, as-tu joué à Lords of Elis?
J'ai pas encore joué. J'avais acheté la version régulière parce que le Kickstarter était un petit peu trop cher pour moi. Et finalement, une fois que j'ai reçu le jeu, 2 semaines plus tard, j'avais toujours pas joué. Et j'ai réussi à trouver une version Kickstarter, donc qui est pas encore arrivée parce qu'on attend la Wave 2 avec toutes les stretch goals. Fait que j'ai vendu mon autre copie. Puis là, ben, j'attends de pouvoir y jouer. J'ai hâte.
J'ai hâte de voir, j'ai pas, ben moi, c'est le jeu est un ami. Moi-même, je songe peut-être à l'acquérir parce que je suis curieux du mode solo. Je connais quelqu'un qui a joué et qui a dit que c'est un super bon challenge. Puis le jeu, je trouve ça intéressant qu'un jeu comme ça offre un mode solo parce que d'habitude, c'est le genre de jeu qui est juste intéressant avec plusieurs joueurs, donc 3 ou 4 joueurs. Là.
Ouais, puis en fait, je pense que même dans le Kickstarter, il y a un extra pour le mode solo, comme un autre mode que tu peux jouer.
Bon, ça y est, là, je voudrais plus la version retail, je vais vouloir la version Kickstarter.
Mais c'est correct, je pourrais te le vendre, moi le solo, il sort pas souvent.
Ouais, mais non, et Lord of Elis, ben franchement, j'ai hâte d'y rejouer, c'est pas ma copie. Là, j'ai 2 parties de jouer, j'ai joué une partie à 2 joueurs, j'ai joué une partie à 3 joueurs. Je pense que j'ai aimé ça avec un petit peu plus de monde. Je serais curieux de voir aussi à 4 joueurs, le jeu est vraiment intéressant, puis il me trotte dans la tête, je dirais. Là, que j'ai envie peut-être d'y jouer un petit peu plus. C'est Lords of Elis.
Ouais, ce genre de jeu-là. Je pense qu'à 4 joueurs, ça va être. À 4 ou 3, ça doit être le sweet spot, là.
Ouais, je pense qu'il y a plus de monde. Je pense que 2, ça doit être la configuration la plus faible. Ouais. Ben, franchement, je pense que c'est plus intéressant que plusieurs joueurs. Il y a plus de présence sur le plateau de jeu aussi.
Ouais, définitivement. Ben, c'est pas mal tout le temps, c'est comme ça, dans les jeux de contrôle de territoire, là. Ouais, plus t'as d'adversaires, plus il y a une interaction, plus c'est intéressant.
Ouais. Bon. Et ça fait le tour un peu de Lord of Elis. Mais parlant de Kickstarter, on était dans Lord of Elis. Les Kickstarter. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, je suis un avide consommateur de Kickstarter. Je pense que les gens qui me suivent, parce que bon, sur Kickstarter, on peut suivre les différentes personnes qu'on a, exemple sur Facebook, des choses comme ça. On apprend qu'il y a des gens qui backent beaucoup plus que d'autres. Un petit conseil de jamais suivre James Hudson.
ouais, mais... Tu sais, lui, il a une compagnie, fait qu'il y a un petit peu plus de lousse là, pour les jeux. Il peut se permettre d'encourager plus de gens, surtout avec ses projets à lui qui ont été super... qui ont eu beaucoup de succès, là.
Mais ce que j'aime aussi des gens comme ça, c'est que des fois... Parce que bon, on voit backer, bon, je remarque un peu, je suis Kevin sur Kickstarter, mais des fois, ça arrive souvent que je vais backer 1$. Donc, je back un projet à 1$ pour suivre le produit. Suivre qu'est-ce yes. que c'est, puis si ça continue de m'intéresser au courant du projet, je vais avoir les mises à jour, puis je vais peut-être pouvoir m'impliquer un peu plus.
Ouais, je fais la même chose. Je pense que c'est le meilleur moyen sur Kickstarter, là. Ben, c'est dans ça. Un projet que t'es pas super sûr, là.
Mais je pense que James Hudson doit faire ça aussi, parce qu'il back beaucoup trop de projets.
Ben, comme je te dis, il y a plusieurs créateurs comme lui qui ont des compagnies d'édition qui vont backer vraiment beaucoup de jeux, surtout pour encourager. Puis en plus, ça leur permet aux autres d'essayer puis de voir d'autres types de jeux qu'ils ont, là, et qui existent.
Mais c'est intéressant parce que Kickstarter est une plateforme... Il y a beaucoup de gens encore qui ont peur un peu de Kickstarter.
Ah ouais?
Ah oui, sérieusement, je connais du monde qui dit « Ah, ben tu sais, j'ai pas trop envie. Ah, c'est cher. » Des choses comme ça. Mais c'est pas... Moi, j'aime ça de dire au monde, je vais rarement backer les gros projets. Donc, les projets de Simone, Cool Mini or Not, ou des gros projets à grande envergure, j'avoue que moi, personnellement, je back ça un peu moins. parce que, je sais pas, j'ai comme l'impression, bon, c'est une, presque une plateforme de pré-vente, mais j'aime les petits projets. Pas les projets qui sont trop underground, parce que ceux-là, souvent, bon, des fois, c'est des jeux qui sont pas testés ou qui verront même pas le, la lumière du jour, mais il y a beaucoup, beaucoup de petits jeux intéressants que j'ai découverts grâce à ça. Puis je pense que moi, c'est ce qui m'intéresse dans les projets Kickstarter, c'est les choses que j'ai l'impression de participer au jeu. J'ai l'impression de bonifier le jeu et faire en sorte que les gens vont avoir une meilleure copie à cause de moi, à cause de mon argent que j'ai mis.
Moi, je fais pas vraiment de discrimination. Je back les gros, puis je back les petits. Bon, un peu moins maintenant. Les gros, c'est juste souvent ceux de Cool Mini or Not, parce que, sincèrement, après un Kickstarter, comme la version magasin devient terriblement moins intéressante, là. T'as l'impression de passer à côté de pratiquement le trois quarts du jeu, là.
Mais c'est ça le problème. Ouais. En anglais, il y a une expression qui dit le FOMO, le fear of missing out, peur de passer à côté de quelque chose de vraiment génial. Puis, Simon sont forts pour ça. Ils ont fabriqué un culte de tout ça. Puis, ça fait mal parce que, bon, je me dis, ah, le jeu m'intéresserait. Starcadia Quest. Bon, Starcadia Quest, qui est un jeu qui est une espèce de réimagination du jeu Arcadia Quest dans un univers futuristique, sci-fi. Je l'ai pas backé, mais ça me travaille. Puis, je suis comme, ah, je vais voir la version retail. Puis, il va tellement avoir moins de choses. Je suis comme, oh, je suis un peu découragé, là.
Ouais, justement, pour Arcadia Quest, moi, la première version. Quand il avait sorti sur Kickstarter, j'hésitais entre celui-là puis Super Dungeon Explorer. Puis finalement, j'avais backé aucun des deux. Et plus tard, j'ai acheté Arcadia Quest en version magasin suite à la critique sur de plusieurs mondes. Quand c'est sorti, les gens ils trippaient tout sur le jeu, fait que j'ai décidé que moi aussi je le voulais. J'ai essayé ça, j'ai vraiment aimé. Puis après ça, ben, ça a été la chasse aux exclusifs.
La chasse aux extras.
Ça coûte cher, ça.
Ouais, ça finit par revenir plus cher que si jamais tu l'aurais backé.
Ouais, fait que finalement, j'ai appris ma leçon. Puis si un jeu comme m'intéresse vraiment de Cool Mini or Not, je vais juste le backer sur Kickstarter.
La question, c'est, as-tu backé Starcadia Quest?
J'ai mis 1$, parce que j'ai moins de budget, là. Mais, il me tente aussi, là, les petits bonhommes, là, avec toutes les références pop, là.
Mais moi, le pire, c'est que Arcadia Quest, moi, j'ai choisi le clan Super Dungeon Explorer. Donc, ouais. J'ai choisi, mais je me suis dit dans ma tête, je pouvais en choisir un des deux. J'ai acheté un gros kit de Super Dungeon Explorer. Je l'adore. Fait que moi, cet Arcadia Quest me travaille encore plus parce que je le vois pas comme un autre Arcadia Quest. J'ai pas Arcadia Quest, puis j'y ai même pas joué. Fait que j'ai le goût. Tant qu'à embarquer, commencer à zéro, je pourrais peut-être commencer là, ce serait moins pire. Tu sais, on essaie de justifier des fois, là.
Ouais, puis en plus, si on nettoyait le design.
Ben c'est ça, c'est plus clean. J'ai peur qu'il y ait trop, en anglais dit streamliné. Il y a beaucoup de monde qui ont dit ça, que bon, ils ont simplifié un peu le produit. Je sais pas s'ils l'ont trop simplifié. Comme je dis, j'ai pas joué à l'original. Je sais que dans l'original, on contrôle 3 personnages. Dans Starcadia Quest, je pense que c'est 2.
Ah, ça se peut. J'ai pas trouvé ça.
Ils ont comme pas simplifié ça, parce que bon, le jeu, ils l'ont peaufiné aussi, là. Mais non, il fait partie, là. J'ai pas mis un petit dollar là-dedans, je vais probablement le regretter.
T'as pas mis 1$?
Non, même pas.
Non. En plus, je sais pas, moi avec les projets de Cool Mini or Not, en plus, c'est un peu. Je mets 1$ juste pour recevoir les updates parce que c'est un projet qui est comme tellement le fun à suivre. Parce que tu reçois pratiquement un update par jour de trucs qui ont débloqué. Fait qu'il y a comme des nouvelles affaires à chaque jour. C'est comme 30 jours de surprises à chaque jour.
Non, mais c'est le fun dans ça là. Ouais. Mais je dirais que, pis c'est vrai, c'est quelque chose d'autre qui m'amène à aimer les Kickstarter. J'aime suivre une campagne.
Ouais, ouais, moi aussi.
Une des premières campagnes que j'ai suivies de manière vraiment poussée, ça a été Centurini de Roxley Games. Je pense que toi aussi, Kevin, t'as suivi cette campagne-là.
Ben ouais.
Je pense qu'on avait fait un achat massif de copies.
Yes.
Mais dans Centurini, ce qui se passait, c'est que on débarrait un paquet de stretch goals, donc des bonus qu'il y a. Et c'était un constant flot d'informations, de nouvelles. Oh, deux nouveaux bonhommes, une nouvelle chose, un nouveau but, une nouvelle. Fait que la campagne était très enlevante. Puis je trouvais ça le fun, effectivement, d'en recevoir les updates tout le temps comme ça, parce qu'on a l'impression de participer, puis de faire partie d'une game, puis c'est comme un événement, là, tu sais. Fait que non, les Kickstarter, pour ça, je trouve que ça a vraiment beaucoup de potentiel, les Kickstarter de fun.
Puis justement, Centurini, le jeu était tellement simple à faire une version maison que je m'en étais fait une. Donc, à chaque jour, j'avais un nouveau dieu dans une pile à pouvoir essayer. Donc, je m'étais fait imprimer des cartes aussi. À chaque jour, j'en rajoutais. Fait que là, ça me donnait plus en plus de trucs à essayer. C'était comme super le fun, là.
Non, mais c'est le fun. Ça donne un autre kick à des campagnes de Kickstarter.
Ouais, ben, je pense que c'est juste parce qu'on se sent comme impliqué. Parce qu'on a mis notre argent dedans, puis là, on espère qu'il y a d'autres personnes qui vont y aller, puis ils nous donnent de plus en plus de trucs. Puis quand c'est constant comme ça, t'as l'impression de tout le temps être impliqué dans la campagne.
Oh, c'est intéressant. Mais là, parlant de projet intéressant, toi Kevin, de ces temps-ci, c'est quel projet que tu trouves le fun? Parce que des projets, il y en a beaucoup, ça roule tout le temps, il y en a un paquet. On en voit beaucoup, beaucoup, de très mauvais même. Mais présentement, qu'est-ce qui est intéressant sur Kickstarter?
Ben écoute, je trouve que en ce moment, on est un peu dans un creux. Hein. Moi, il y avait plus de projets dans les trois dernières semaines qui avaient de l'air intéressant, mais ils sont pas mal tous terminés. Je te dirais que dernièrement, il y a Battlecon Unleashed, dans le fond, une extension pour Battlecon. Je sais pas si tu me dit,
non,
je pense que tu
n'y
as pas joué.
Pas,
c'est un genre de petit jeu de combat. Tu vas choisir deux cartes. Puis ces deux cartes-là vont s'allier ensemble pour faire un power, te donner comme des stats spéciales, puis déterminer le nombre de dommages que tu vas faire. Ça va déterminer comment tu vas pouvoir bouger pour aller attaquer l'autre. C'est un jeu genre Street Fighter, mais en cartes.
OK.
Et ils l'ont vraiment bien fait. Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ça, parce que les personnages, tu dois les jouer plusieurs fois pour comprendre bien comment ils fonctionnent. Puis ça va vraiment paraître, là. Quelqu'un qui a jamais joué, puis quelqu'un qui a joué, là, il va comme... En fait, un peu comme jouer contre quelqu'un sur PlayStation ou à Street Fighter. Sur Street Fighter, là. Si tu joues contre quelqu'un qui joue tout le temps, puis que toi, t'as jamais joué, tu vas juste te faire défoncer, puis t'auras pas de plaisir.
Il va juste connaître tous les moves, puis...
Ouais, exactement. Tu vas avoir l'impression que t'es pas capable de rien faire.
Sauf, et je prends une petite parenthèse ici, sauf s'il saute puis il donne des coups. Ça, c'est comme la technique infaillible que n'importe qui sait pas jouer va prendre un jeu de combat, va sauter, va donner des coups de pied, puis va battre le gars qui connaît trop le jeu. Ça, c'est vraiment frustrant.
Ouais, ben je pense, dans Battlecon, je pense pas que tu peux faire ça.
Tu peux pas sauter, mais donner des coups de pied.
Parce que les cartes que tu utilises, les deux cartes que tu vas utiliser, tu les retournes puis tu peux pas les utiliser pour le prochain tour.
Okay.
Donc, puis en plus, ces cartes-là, comme j'ai dit, t'en as deux, t'as deux catégories là. Puis tu peux les mélanger ensemble pour faire des combos. Il y en a qui vont fonctionner mieux sur certaines occasions. Chaque personnage a genre des pouvoirs. Puis c'est fait par Level 99. Puis je sais pas si vous avez déjà joué à d'autres jeux de Level 99, mais habituellement là, ils mettent assez de stock dans leur boîte pour que juste le jeu de base soit correct pour comme une dizaine d'années, je pense, avant de pouvoir faire le tour au complet là.
Ah non, ils ont du stock. Puis j'aime beaucoup leur production aux autres.
Mais c'est ça, puis le Kickstarter, là, c'est... ils ont fait une autre extension, of course, qui ajoute comme une vingtaine de fighters, là, c'est une affaire ridicule, là. Je pense qu'ils sont déjà rendus avec comme 80 fighters, là, ou une affaire de même. Mais ça rajoute aussi une grosse boîte avec plein de petits tuckbox, toutes des petites boîtes pour chaque fighter. Donc tu peux les séparer dans les boîtes, puis ils donnent un set de cartes basic de plus, que tu vas pouvoir mettre dans chaque fighter. Donc après ça, tu fais juste prendre la boîte puis t'es prêt à jouer. Tu sais, c'est... J'ai vraiment le goût de prendre ça, mais ma copie à moi, elle m'a pas servi encore. J'ai juste joué avec une copie de quelqu'un d'autre. J'ai pas encore trouvé un joueur qui s'intéresse assez pour...
Ça fait penser un peu à Puzzle Strike, qui est comme un petit jeu qui s'apprend des joueurs.
Ouais.
C'est pas évident parce qu'on a les jeux, mais on manque le temps de jouer au jeu. Puis des fois, l'idée d'avoir un jeu est presque plus intéressante que de le jouer.
Ouais. Puis il y a des fois, on commence à triper sur un jeu bien solide, sauf que des fois, c'est dur de trouver une autre personne qui va avoir le même niveau d'intérêt face au jeu.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a tenu loin de la part des LCG qu'il y avait, là.
Ouais. Il y a Arkham Horror que j'ai toujours pas essayé.
Ah, toujours pas, non, mais... pas encore? Le jeu de cartes?
Ouais, mais je peux jouer tout seul. J'ai juste pas encore essayé.
Mais est-ce que tu vas jouer tout seul?
Ben, je sais pas. Peut-être.
Ben, moi, j'ai joué un peu avec le jeu qui a été le prédécesseur de ça, Lord of the Rings, le LCG.
Ouais.
J'ai un bon kit de Lord of the Rings. J'avais acheté un bundle usagé. J'ai pas joué. En fait, j'ai eu un trip. Quand je l'ai eu, j'ai joué une vingtaine de games. Puis après ça, je pense que je l'ai délaissé. Puis je sais pas pourquoi. Il faudrait que je leur sorte... Mais ouais. Ça, j'ai juste joué en solo. La difficulté était vraiment là, incroyable. Là. On arrivait à une mission, puis c'était comme, pff, OK, il faut vraiment que tu trouves la combinaison parfaite pour pouvoir gagner.
Ouais, si je me souviens bien, c'est un peu ça, le jeu. Là. C'est un jeu où tu vas le faire, tu vas te battre une fois. Ah, OK, ça fonctionne comme ça. Tu vas modifier ton deck. Tu vas le réessayer. Ah, ça fonctionne pas encore, mais je pense que c'est proche. Tu remodifies ton deck. jusqu'à temps de que tu le passes là. Je pense qu'ils sont faits pour que les scénarios soient joués plusieurs fois.
Ouais, alors, ça, il faudra que j'essaye. Sinon, moi de mon côté, il y a un projet qui m'intéresse beaucoup plus que les autres. C'est The Artemis Project. Le jeu, bon, j'ai même pas lu les règles. J'ai regardé le vidéo de présentation sur Kickstarter et il est vraiment génial. Tu sais, une petite minute pour essayer d'aller chercher l'intérêt de la personne qui va le regarder là. Le jeu a réussi à merveille. As-tu vu la vidéo?
Oui.
D'habitude, j'écoute pas ces vidéos-là. Moi, je suis comme, bon, je vais aller scroller, je vais regarder un peu le plateau de jeu, je vais regarder les éléments, je vais regarder comment ça se joue. Des fois, s'il y a un livre de règles, je vais le lire. Celui-là, bon, j'avais tout fait ça, puis le jeu m'intéressait. Plus tard, je vais cliquer sur la petite bannière en haut. Waouh! Okay, la qualité de production est simple, mais vraiment efficace. C'est un jeu de placement d'ouvriers, puis de placement de dés. Je trouve qu'il y a vraiment un visuel intéressant, puis un thème vraiment génial. Je sais pas, toi, là, c'est un projet que tu connais?
Ouais, oui, je l'ai vu quand il est sorti. C'est pas mal dans ceux qui m'intéressent. Mais en plus, c'est Grand Gamer Guild qui fait ça. Ils ont fait comme... Je sais pas si t'as vu les autres projets qu'ils avaient fait à date?
Non, pas encore. J'avoue que Grand Gamer Guild, ça me disait pas grand-chose.
Ah, c'est peut-être pas la même que je pensais. Ah non, ils ont juste... Je pense que je les mélange avec un autre.
Ok. Non, c'est ça, mais quand j'ai vu, puis je dirais que des fois, même, je regarde toujours les jeux qu'ils ont fait avant, puis là, j'étais comme, ok, je suis pas trop sûr, mais ouais. Je trouve que le jeu a de l'air bien fait. Le jeu a de l'air bien, ça a de l'air des bons mécanismes bien placés. Puis bon, j'y ai pas joué, mais c'est le genre de jeu qui me donne vraiment le goût. Là, on a toujours un petit projet qu'on veut guesser quelque chose. Puis ben, tant si, ça, c'est The Artemis Project, c'est mon petit projet que je guesse.
Ouais, plus je le regarde, là. Il est vraiment beau.
Non, là, il est beau. Il a un beau look. Puis je trouve que ça a l'air intéressant. Et j'aime beaucoup le dice placement. Donc, on peut placer des dés avec une certaine valeur dans différents endroits. C'est vraiment... Ça a l'air efficace. Ça a l'air bien marché.
Ouais, je suis d'accord.
Fait que moi, c'est pas mal les projets Kickstarter tout temps-ci que j'ai, là, Artemis Project. Sinon, comme on dit, c'est une période un peu plus creuse pour moi, là. Je sais qu'il y a aussi là, l'extension de Viceroy qui est sortie... sur Kickstarter, je vais essayer de suivre un peu la campagne. Là, elle avait déjà été cancellée une fois. Ils ont décidé de refaire une deuxième campagne. Je vais voir bon, ce que ça apporte. Parce que Viceroy est un petit jeu intéressant que j'ai joué beaucoup quand c'est sorti, mais après ça, c'est comme resté ses étagères. Puis je sais pas si l'extension est nécessaire à ce que bon, je l'aille la chercher puis que je ressorte le jeu une autre fois ou encore que finalement le jeu finisse par rester par s'oublier dans ma bibliothèque. Là.
Ben, de ce que j'ai vu, il a l'air d'ajouter beaucoup de modules. Ça a l'air d'être des gros modules quand même, là, qui ajoutent une vingtaine de cartes chaque.
Ouais, j'ai vu le module Underworld qui a de l'air vraiment génial. Où on fait une pyramide, mais à l'envers.
Ouais.
Non, ça a l'air un projet intéressant. Je sais pas si je vais aller jusqu'à la fin ou si je vais juste mettre un petit dollar pour suivre le déroulement du projet.
Ouais, Viceroy, c'était un bon jeu qui a comme un peu tombé dans l'oubli. Ben, en fait, il y a tellement de jeux qui tombent dans l'oubli. Là.
Ouais.
Tu sais, quand il y a comme 3000 jeux qui sortent par année, là, c'est sûr qu'il y a seulement ceux qui sont vraiment extraordinaires qui restent et qui réussissent à survivre.
Ah non, c'est pas évident, il y en a tellement.
Ouais. Mais c'est. Sur Kickstarter, là, il y en a quelques-uns là, qui s'en viennent, qui vont être écœurants des projets. Là. Il y a Tidal Blades.
Tidal Blades.
Yes. Illustré encore une fois par M. Cuddington. Je pense que c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment beaucoup. Là, mais...
Ben, je pense que oui. Je pense que de base. La combinaison, James Hudson, les frères Eisner, Mr. Cuddington, on a vu ça dans Grim Forest. Puis, ouais. Ben, Mr. Cuddington, c'est des artistes d'ici qu'on connaît, qu'on a eu l'occasion de moi et Kevin, de pouvoir même jouer avec eux. Puis, non, le projet a de l'air absolument magnifique.
Ouais, ils ont créé un monde, ça fait comme un an et demi qu'ils travaillent dessus, là. Ils ont tout créé. Comment ça allait être, la technologie qu'elle allait avoir, les monstres, ils ont tout fait. Puis Durid City Game avec James Hudson, ils ont fait un jeu avec ça. Ils ont pris ce monde-là puis ils ont intégré un jeu. Ou plutôt, ils ont intégré le jeu, la mécanique, au monde.
Ouais, parce que ben comme quand j'ai parlé avec justement Lina puis David, moi, ils me disaient que bon, James Hudson est allé les voir. Hey, j'aimais ça travailler avec vous autres. J'ai une idée de jeu comme ça. Ça pourrait être ça. Puis sur le coup, il était comme bof, ça nous intéresse pas trop. Puis là, James Hudson est revenu. En disant, mais qu'est-ce qui vous intéresse à faire? Parce qu'il est intéressé vraiment de travailler avec eux. Puis c'est là que là, ils ont sorti l'idée justement de ah, écoute, ce serait le fun d'avoir un jeu situé dans notre univers, notre monde. Donc vraiment de créer un univers complet. Puis qu'on a épuisé un jeu dans cet univers-là.
Ben oui, ça c'est écœurant pour un artiste, là. Ils peuvent décider de faire tout ce qu'ils veulent, puis travailler là-dedans, avoir quelque chose qui va rester, puis peut-être le développer encore plus.
Puis ce qui est le fun avec Tidal Blade, c'est que, bon, là, ils ont annoncé justement au début du mois d'octobre, le projet va arriver sur Kickstarter, mais il y a également une deuxième partie qui est déjà prévue à l'horaire. Le jeu va être designé, entre autres, là, pas uniquement par lui, là, mais entre autres par Jonathan Gilmore. Et le jeu va être complètement différent. Je sais pas si tu t'es renseigné un peu sur la deuxième partie.
Ouais, dans le fond, ça va être un dungeon crawler.
Donc c'est ça, c'est vraiment un concept vraiment différent. Puis je sais pas si ça va y avoir un 3 après. Je sais pas combien c'est une trilogie ou si c'est un nombre X de jeux, là.
Ouais, j'imagine qu'ils vont y aller avec le succès.
Mais sérieusement, bon. Je trouve ça vraiment intéressant, le fait qu'il y ait déjà une deuxième partie, puis d'avoir un jeu dans un univers, ou même une série de jeux dans un univers commun. Moi, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'appartenance.
Ouais, ben c'est clair qu'après avoir vu les dessins, James s'est probablement dit « Wow, je veux faire plusieurs jeux dans cet univers-là. »
On tient quelque chose, là, on va en profiter.
Ouais.
Ah non, Tidal Blade, sérieusement, là, je pense que c'est le 16 octobre que le projet va être live.
Ouais, je confirme.
Et voilà, donc Tidal Blades, un projet à suivre. C'est certain que si vous me suivez sur Kickstarter, vous allez voir une petite notification en disant « Sylvain a backé ce jeu ».
Ouais. Puis un autre que je risque de poser beaucoup de questions, moi, c'est Monumental. Je sais pas si t'avais vu passer ça la première fois.
J'ai vu la première campagne.
C'est fait par Funforge.
Ouais. Je pense.
Ouais, c'est fait par Funforge. Pour vrai, la première campagne, là, ça revenait, c'était vraiment dispendieux, là. Pour nous autres ici au Canada, là, t'sais, c'était quelque chose comme 100€ de base, plus du shipping, qui était comme 20 ou 30$ parce qu'il y a plein de miniatures dedans. Puis ils mettaient une extension de plus. Donc si tu voulais l'extension avec les factions de plus, ça, tu devais rajouter un 50 ou un 60€ de plus. Là, ça revenait quasiment à 200$ canadiens. Là. C'était comme vraiment trop cher. Et les gens ont pas aimé ça non plus, que ce soit trop cher comme ça. Tu sais, les gens sur Kickstarter sont habitués à ce que ce soit les prix en US. Puis même en euros, les gens, faut qu'ils augmentent le prix en US, là.
Donc, fait qu'en dollars canadiens, c'est encore beaucoup, beaucoup plus.
Ouais, vraiment. Mais là, ils ont décidé de retravailler, puis ils vont offrir une version avec des miniatures encore. First, leurs miniatures sont vraiment écœurantes, là. Les soldats, puis les héros, là, sont vraiment, vraiment écœurants. Puis ils vont aussi offrir une version avec des tokens. En carton. Dans le fond, au lieu d'être des miniatures, ça va être des ronds. Okay. Fait que pour quelqu'un qui est pas vraiment attaché au petit bonhomme, ben il va pouvoir prendre celle en carton puis il va garder le gameplay. Parce que grosso modo, le gameplay est quand même super cool. Ça fait quasiment penser à un... C'est un mix de Engine Builder avec Deck Builder, si on peut dire. T'as genre une grille de 9 cartes, puis à chaque tour, tu vas activer une ligne puis une colonne. Donc tu vas activer, la plupart du temps, c'est juste 5 cartes. Et à la fin de ton tour, tu vas flusher ces cartes-là, tu vas les mettre dans ta défausse, puis tu vas repiger 5 cartes de ton deck que tu t'es fait, et tu vas les mettre dans ta grille. Puis ton prochain tour, tu vas réactiver une ligne et une colonne dans ce carré-là. Donc, tu peux monter un peu comme tu veux tes affaires, puis après ça, tu dois t'arranger avec comment les cartes sont apparues dans ta grille. Puis c'est un peu un 4X en même temps, là. Donc, tu vas explorer, tu vas attaquer, produire des ressources... pour l'exploit, puis l'autre... c'est quoi l'autre?
Ah, tout le temps les 4X, on oublie toujours, hein?
Ouais,
exploit, exterminate, expand.
Est-ce que tu expand? Je sais qu'il y a explore, exploit, puis exterminate.
Et voilà. On est les 4. Dans les autres, tout le temps.
Anyway. C'est... mais ouais, c'est... Pour vrai, il est proche dans mon cœur. Les dessins sont super beaux. Le concept est super le fun. J'ai écouté une vidéo tantôt, puis la mécanique est vraiment cool aussi avec les cartes. Là. Je pense que vraiment, ils tiennent quelque chose de super intéressant. Tu peux même upgrader tes cartes. Je pense qu'il y a comme vraiment quelque chose là-dedans. Mais là, reste à voir le prix, puis c'est ça. Le prix du shipping, puis voir comment en canadien, à quel point ça va nous coûter cher. Parce que ça, c'est un exclusif Kickstarter. Là. Ils ne sortiront pas en magasin.
Ah! Oh.
Ouais, ça c'est.
Ils nous tiennent, hein. Ils nous tiennent.
Ouais. Ah, le FOMO qu'on parlait tantôt.
Et voilà, on a peur de le manquer. C'est la seule occasion qu'on a. Vite, prenez-le.
Ouais. Ah, je sais pas. Je sais pas ce que ça va faire.
Moi, j'ai beaucoup. J'avais vu la première campagne, mais je ne sais pas. Comme je dis, je pense que c'était probablement le prix qui m'avait enlevé un peu mon hype. J'ai bien hâte de voir la prochaine. Je ne sais pas si la campagne est supposée recommencer bientôt.
Ouais, en octobre. Okay. Je pense que c'est pas le 1er octobre. C'est dans le mois d'octobre. Là. Je pense que c'est dans les deux premières semaines ou la fin d'octobre. Mais c'est bientôt.
En fait, là, c'est vrai que c'est la période un peu plus creuse. Je dirais que le gros moment, en tout cas, de ce que je crois là, pour les Kickstarter, au moins autour du mois de mars, là, ouais. Souvent, c'est ça que les gros projets. Là, on est dans la zone de plus. On va recevoir des jeux bientôt.
Ouais, j'en ai plein que je reçois.
J'ai beaucoup de projets, moi aussi, qui sont en attente, qu'on commence à avoir des notifs de éventuellement. Ah, ça va être shippé bientôt. Je pense que le mois de octobre, novembre, décembre, ça devrait être une réception de plusieurs projets parce que moi, je l'ai un petit peu échappé au courant de l'année dernière. Là.
Ouais, moi avec, je trouvais ça. L'année 2017 a été une année de dépenses pour moi. Puis maintenant que je peux plus vraiment autant dépenser ces temps-ci, ben je trouve ça quand même le fun parce que je vais recevoir vraiment beaucoup de jeux dans les prochains mois.
Ben, c'est le fun des Kickstarter. Moi, j'aime ça parce que, bon, oui, c'est certain qu'on a payé le jeu avant. On s'est intéressé à la campagne. On a eu un petit moment excitant. Puis après ça, ben, il y a l'attente. Puis, à un moment donné, on n'oublie pas parce qu'on se rappelle les projets qu'on a, mais ils sont un peu moins présents. Donc, on a moins de mises à jour, le processus se fait, puis avance de bons petits trains. Puis à un moment donné, c'est comme, boum, hey, le jeu va arriver bientôt. C'est comme, wouhou!
T'as-tu des exemples de qu'est-ce que tu vas recevoir bientôt?
Très bientôt, écoute, il y a Aeon's End Legacy que j'ai vraiment hâte de recevoir. Sinon, il y a un jeu qui a quelques mois de retard, en fait, je pense un ou deux mois de retard à date, c'est pas rien de catastrophique. C'est Dice Hospital, qui est un Kickstarter que j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer. Je pense que tu l'as backé, celui-là aussi.
Ouais, je suis dans le même groupe que toi.
Ok, ouais, c'est vrai. Ouhou. Donc, Dice Hospital, j'ai vraiment hâte. Sinon, un petit peu plus tard, Sorcerer City. Un jeu qui a de l'air vraiment, vraiment génial.
Celui-là aussi, j'étais avec toi.
Ah, voilà, c'est le fun. Hein? C'est pour ça. On s'aide pas vraiment. Hein? Mais il y a beaucoup de petits projets comme ça qui vont arriver. Là. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu en retard, comme Montana, que là, il y a déjà une version sur les étagères du jeu. On a d'ailleurs une review qu'on a faite, notre collègue Joe de l'école du jeu, qui avait fait une critique de jeu-là. As-tu joué à Montana?
Non, pas joué à Montana.
Non. Ben moi, j'ai bien hâte de le recevoir, mais bon, c'est ça. Il est en retard. Éventuellement, on va l'avoir avec une petite version avec de la monnaie en métal puis des choses comme ça. Mais ultimement, la version retail est déjà disponible. Fait que c'est un peu moins amusant dans ce temps-là. Là.
Ouais. Moi, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Il y a Western Legend, qui est supposé arriver d'ici la fin du mois d'octobre. Il y a Kentis de TMG, la version Deluxe. Ça, j'ai eu l'occasion de jouer à la version de Spielwork, là, celle qui est pas qui a pas plein de petits trucs dedans.
Qui est pas de luxe.
Et sincèrement, le jeu est juste vraiment, vraiment super bon. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir juste pour pouvoir y rejouer. Là. J'avais vraiment aimé ma partie. Plein de décisions, plein de petits trucs que tu peux faire. Ça offre beaucoup de choix. La partie était super serrée, celle-là aussi. J'ai vraiment adoré. J'ai hâte d'avoir ça. Il y a Endeavor aussi qui devrait débarquer dans très pas long.
Oui, le jeu de bateau.
Yes. De bateau.
Ben, Endeavor, c'est pas maritime?
Ouais, maritime. C'est un peu, dans le fond, les conquêtes, là. T'essaies un genre de contrôle de territoire.
OK. Je sais qu'il y avait des traces, de game traces qui étaient absolument magnifiques. Celui-là, j'ai un petit regret de ne pas l'avoir backé.
Yes. C'est juste dans la version Deluxe, là. Ça, pour vrai, je pense que ça va tout changer, là.
Deluxe?
C'est vraiment une belle addition. Là. La version Deluxe, elle est vraiment... Les game trays, plus les composantes aussi, là, tout est comme vraiment super. Même les plateaux en carton sont. Ils ont des petits espaces pour pas que les cubes tombent.
Ah non, écoute, ça va chercher le fear of missing out, la peur de manquer. Là, j'ai manqué mon projet.
Ouais. Faut
que je vive avec ça.
Un que j'avais manqué puis que j'ai finalement pris plus tard quand ils ont réouvert le Late Pledge, là, c'était Reckoners, moi. Ça aussi, j'ai vraiment hâte. J'aime tellement l'univers de Brandon Sanderson. Puis. Le jeu, j'ai juste pas pu résister. Je trouvais au début, la première fois que je l'ai vu, là, quand je l'ai vu sur Kickstarter, la raison pour laquelle je l'ai pas backé à 100%, c'est juste parce que je trouvais que ça avait l'air un petit peu simpliste. T'sais. Juste, tu brasses tes dés, tu vas un genre de King of Tokyo. Puis je trouvais que c'était cher un peu pour un King of Tokyo co-op. Genre. Puis quand les vidéos ont commencé à sortir, j'ai écouté les gameplays, puis ça a vraiment l'air le fun. Là. Étrangement, là, ça a vraiment l'air cool. Mitiger tes affaires avec tes dés, avoir les équipements, puis les méchants sont super forts, puis si tu laisses trop ça aller, tu vas te faire ramasser, là, un peu comme un rouleau compresseur qui va passer sur toi. Là. Ouais, ça aussi, Ça m'a coûté cher, ça, là. Il était plus cher. Il était plus cher quand tu l'achetais plus tard.
Ouais, c'est ça qui arrive. Des fois, on a les pledges, mais c'est un peu moins intéressant.
Ouais, mais alors, c'est pas grave. Je suis tellement un fan que je t'avais juste backé au niveau pour avoir... Brandon Sanderson a décidé d'écrire un genre de petit livret qui avec un petit backstory puis les pouvoirs de chaque vilain dans le jeu. Fait qu'il a écrit un petit livre avec tous les vilains du jeu qui est décrit. Fait que pour moi qui trippe sur l'univers, c'était comme juste un ajout super intéressant.
Ça va chercher de... comment hyper quelqu'un avant que le projet arrive.
Ouais, exactement. J'avais déjà backé ça avant même de savoir si j'allais prendre le jeu ou pas. Puis même si je prenais pas le jeu, c'était sûr que je prenais ça pareil. Juste parce que je voulais l'avoir.
Moi, j'ai backé un jeu aussi que je devrais recevoir très bientôt. Le jeu Enchanters.
Yes, ça aussi, je l'ai.
Oui, t'as-tu joué?
Ben oui, j'ai même la première version.
Ok, t'as la première version. C'est bon, ça, moi, j'ai backé pour l'extension. Puis en fait, le jeu de base aussi. Là. C'est un petit jeu qui a pas trop de l'air compliqué. Puis qui a de l'air plutôt sympathique. Ou qu'on fabriquait des objets, puis... Mais le jeu est vraiment simple, je sais pas, j'ai pas joué, mais je trouvais que le look était vraiment génial.
Mais gars, moi, quand je l'ai fait essayer à du monde, ils ont fait comme « Hey, où est-ce que je peux l'avoir? » Là, je leur avais dit « Hey, juste en ce moment, il y a un Kickstarter pour l'extension, puis tu peux acheter le jeu de base dessus. » Puis la personne, c'est ça qu'elle a fait.
Mais c'est ça, le jeu a pas été distribué?
Non.
Parce que c'est ça l'affaire avec Kickstarter puis les petits projets que j'aime backer. Ouais. C'est que des fois, ça se peut que c'est des projets qui se retrouvent même pas en magasin. Mais encore là, ouais. Tu sais, ça va chercher encore le fear of missing out. J'ai peur de le manquer, ça veut dire qu'il faut que je le back.
Ben oui. Et tu te demandes, est-ce qu'il va sortir en magasin ou il sortira pas? Est-ce que je prends la chance ou pas, tu sais?
C'est un push your luck finalement. Hein? On est tellement des gamers qu'on fait ça dans toutes les facettes du hobby.
Effectivement.
Et voilà, fait que je pense moi ça fait pas mal le tour des Kickstarter intéressants qui s'en viennent. Là. Je sais qu'il y en a quand même pas mal, mais ouf.
Ouais, moi aussi. Ben en fait, non, pas vraiment, mais moi je pourrais en parler pendant encore 3 jours.
Ouais, c'est ça. On préfère une édition spéciale, juste des jeux qu'on attend. Là, je regarde ma liste, là, puis j'en ai 27.
C'est juste la semaine passée, j'ai reçu Obsession, qui est un jeu... je sais pas trop quoi dire comme thématique là. Il y a des gens sur internet qui disaient que c'était un peu dans la thématique de Downton Abbey.
Ok.
Dans le fond, tu contrôles une famille qui essaye d'augmenter la réputation et le prestige de sa famille en invitant des nobles à faire des activités pour monter leur réputation. Puis ton but, c'est de te rendre ami avec la duchesse. Puis une fois que si la personne, dans le fond, c'est ça. Faut juste que tu montes ta réputation, puis c'est un genre de petit engine building. Tu vas avoir des valets, puis des servants, puis tu vas essayer de rendre les gens heureux, les inviter, puis avoir de nouveaux invités de plus en plus prestigieux.
Ah, c'est bon, ça, j'ai pas vu passer. C'est un genre de jeu qu'il faudra que tu fasses essayer un bon moment donné.
Ouais, ben c'est surtout parce que le jeu était pas super joli au début. Moi, j'avais passé à côté, je l'ai pris en late pledge, celui-là aussi. Quand, justement, encore une fois, les vidéos sont sorties des critiques puis de comment le jeu allait être, puis j'ai fait comme « Hey, ça a l'air super le fun, ça! » Fait que j'en ai profité parce que le jeu, je pense pas qu'il va être en distribution. Mais, ouais, c'est... Ils ont tout redesigné, ils ont tout refait les designs graphiques en écoutant les backers. Puis maintenant, le jeu est vraiment plutôt joli visuellement, là. C'est très amélioré.
Est-ce que tu sais c'est qui distribue ce jeu-là? Parce que j'avoue que celui-là, je l'avais vu passer, mais j'ai comme pas trop porté intérêt.
Non, ben en fait, c'était le premier projet du gars.
OK.
C'est Kayenta Game. Puis comme je te dis, je pense pas qu'il va le distribuer en magasin. Ah, peut-être qu'il va réussir à avoir des partenaires. Là.
On risque d'avoir des photos sur les réseaux sociaux éventuellement.
Ouais, effectivement. J'ai hâte de jouer.
Bon, mais je pense que ça fait pas mal un wrap-up des projets qu'on avait.
Ouais.
Fait que je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter là-dessus.
Non, je pense que non.
Non, je pense que ça va clore probablement notre première session d'enregistrement. Ouais. Essayer de voir un peu qu'est-ce que ça donne pour le futur aussi. On s'entend que c'était pas un épisode qui était encore au point. On a beaucoup de mises à jour à faire. essayer de faire des tests de son, des choses comme ça.
Ouais.
Mais au final, là, je suis quand même assez satisfait. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite.
Ouais, moi aussi.
Bon, ben, fait que ben, c'était Sylvain.
Et Kevin.
Pour l'école du jeu version podcast épisode 0.
Yeah.
Puis on se dit ben à une prochaine.
À la prochaine.
On va en faire une autre.
Ben oui. Au moins.
Ouais, c'est bon.